Chapitre 14. Le chapitre 14 des actes vus sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Acte 14 n'est pas un simple journal de mission où les miracles et les persécutions se répètent. Ce chapitre est un récit montrant comment l'évangile de l'eau et de l'esprit se tient fermement jusqu'à la fin en tant qu'évangile de l'événement, tout en traversant les vagues d'incompréhension, de distorsion et de résistance en plein milieu du monde païen. Les événements de ce chapitre témoignent de la manière dont la nouvelle du salut accompli édifie solidement l'Église, même au milieu de l'incompréhension et de la souffrance humaine. Acte, chapitre 14, versets 1 à 7, icône, à propos de la foi inévitable et de la division qui suivent à la proclamation de l'Évangile. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent de point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Alors que Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs à Icône et parlaient, une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Cependant, les Juifs désobéissants excitèrent l'esprit des païens et empoisonnèrent leurs pensées contre les frères. Le résultat de l'évangile prêché par Paul et Barnabas se divisait toujours en deux voies. Ce n'est pas un échec stratégique, mais une réaction extrêmement normale qui apparaît lorsque l'évangile de l'eau et de l'esprit est proclamé avec exactitude. C'est parce que l'évangile ne permet pas aux gens de rester dans une zone neutre. C'est un carrefour de la vie qui les force soit à accepter le fait de ce salut et à obtenir la vie, soit à le rejeter et à s'y opposer. Acte, chapitre 14, versets 8 à 10, le miracle à Lystre, un signe confirmant la foi digne de salut. À Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À Lystre, un homme qui était incapable de se servir de ses pieds, infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché, entend Paul parler. Paul, le regardant attentivement, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et l'homme se lève d'un bond et marche. Ce qui est important ici n'est pas le phénomène de guérison en soi, mais le contenu de la foi qu'il possédait. Cette foi aller au-delà d'une simple attente de guérison physique. C'était la conviction d'accepter dans son âme la réalité de l'Évangile, que le péché et les malédictions avaient déjà complètement pris fin, apportant l'extinction et la suppression absolue du péché par le baptême et la croix de Jésus. Acte, chapitre 14, versets 11 à 13, la crise de la déification, l'épreuve de l'idolâtrie qui bloque l'essence de l'Évangile. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les foules, voyant ce que Paul avait fait, crient dans leur dialecte en disant « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous et appellent le Barnabas Zeus et Paul Hermès. Le prêtre du temple de Zeus à l'extérieur de la ville amène des taureaux avec des bandelettes vers la porte et veut offrir des sacrifices avec les foules. C'était une distorsion de l'évangile bien plus dangereuse que la persécution extérieure, parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit exalte uniquement le ministère, baptême, croix, résurrection accompli par Jésus-Christ. Mais les humains essaient d'obscurcir la gloire de l'Évangile en déifiant la personne qui en est devenue le canal. Acte, chapitre 14, versets 14 à 18, le cri de Paul, abandonner les choses vaines et retourner au Dieu créateur. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Les deux apôtres déchirant leurs vêtements, se précipitent au milieu de la foule et s'écrient, en disant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Paul proclame « Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Au lieu d'imposer des règles légalistes aux païens, Paul prêche le Dieu créateur et le fait du salut qu'il a accompli dans l'histoire. Parce que ce dont les païens avaient de besoin n'était pas d'une amélioration religieuse, mais du fait même du salut qui a éliminé le péché lui-même. Actes chapitre 14, versets 19 à 20, lapidation et rétablissement, l'audace de l'évangile qui a vaincu la mort. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais, les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Des Juifs viennent d'Antioche et d'Icône et incitent les foules, alors ils lapident Paul et le traînent hors de la ville pensant qu'il est mort. Cependant, lorsque les disciples se rassemblent autour de lui, Paul se lève, entre dans cette ville, et le lendemain, il part pour Derbe avec Barnabas pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas un conte héroïque personnel, mais l'audace pratique démontrée par celui qui est convaincu du fait que la puissance du péché et de la mort a déjà été anéantie par Christ. L'apôtre n'a pas romancé la souffrance, mais s'est concentré uniquement sur la valeur de l'évangile qui doit être témoignée. Actes chapitre 14, versets 21 à 23, formeur des disciples, la communauté du salut qui devient solide en traversant les tribulations. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ayant prêché l'évangile dans cette ville et fait de nombreux disciples, ils retournent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant le cœur des disciples et les exhortant à demeurer dans cette foi. Paul dit « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu », ce qui enseigne que ce n'est pas une condition pour obtenir le salut, mais un processus inévitable que ceux qui ont reçu le salut accompli connaîtront dans ce monde. De plus, en faisant nommer des anciens dans chaque église et en les recommandant au Seigneur en qui ils croient, ils s'assurent que l'église repose sur l'ordre de l'évangile écrit et non sur des miracles mystiques. Actes chapitre 14, versets 24 à 28, rapport de retour, le rapport de l'histoire du salut que Dieu a accompli. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Arrivés à Antioche, ils rassemblent l'Église et rapportent. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Le centre de ce rapport n'était pas les histoires de réussite des apôtres ou les chiffres des champs de mission, mais uniquement l'œuvre que Dieu avait accomplie. Le cœur de cette œuvre est le fait que le même évangile de l'eau et de l'esprit a été ouvert sans discrimination tant aux Juifs qu'aux païens, et que Dieu lui-même a présidé sur cette porte. En conclusion, le chapitre 14 des Actes témoigne du fait que l'évangile de l'eau et de l'esprit peut être déformé même dans les miracles et avance même dans la persécution. Les miracles ne sont pas la cause du salut, mais l'évidence et la tribulation n'est pas le moyen d'accomplir le salut, mais le chemin emprunté par ceux qui sont convaincus que le salut est déjà achevé. Parce que tous les péchés ont déjà été éliminés par le baptême de Jésus, les apôtres n'ont considéré ni la gloire humaine ni la souffrance extrême comme des obstacles, mais ont seulement fait en sorte que l'évangile accompli s'enracine profondément dans le monde païen. Un sermon de Paul Sijong. La parole d'Actes chapitre 14, versets 1 à 28, montre de manière vivante le champ de mission féroce où l'Évangile reçoit à la fois un accueil et des persécutions. Le cœur de ce chapitre ne réside pas dans le courage surhumain des missionnaires, ni dans les miracles continus eux-mêmes, mais dans la révélation claire de ce par quoi le salut est établi et sur quel fondement l'Église est bâtie. Lorsqu'on l'examine du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'esprit prêché par le pasteur Paul Sijong. À Icône, une grande multitude de juifs et de païens crurent, mais les juifs désobéissants excitèrent les esprits des païens et empoisonnèrent leurs pensées contre les frères. Ce n'était pas parce que l'évangile était ambigu, mais c'était une réaction inévitable qui apparut parce que la vérité, selon laquelle les péchés ont été transférés par le baptême de Jésus-Christ et le jugement a été accompli par le sang de la croix, était si claire. À Lystre, lorsqu'un certain homme, impotent des pieds de naissance et qui n'avait jamais marché, écoutait parler Paul. Paul, l'observant et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, commanda d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Alors que l'homme se levait d'un bond et marchait, les foules appelèrent Paul et Barnabas des dieux et tentèrent d'offrir des sacrifices, mais les apôtres déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule et rejetèrent immédiatement cela en disant « Pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit ne crée pas de héros humains, mais révèle uniquement l'achèvement du salut que Dieu a accompli, les apôtres ont montré par leur vie le fait que la gloire de l'évangile ne doit jamais revenir à l'homme. Des juifs vinrent d'Antioche et d'Icône et incitèrent les foules. Alors ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, lorsque les disciples se rassemblèrent autour de lui, Paul se leva, entra dans cette ville, et le lendemain il partit pour Derbe avec Barnabas et prêcha l'évangile dans cette ville. La raison pour laquelle Paul a pu se relever même après avoir été lapidé n'était pas due à une force mentale indomptable, mais parce que la conviction de l'évangile, selon laquelle la puissance du péché et de la mort avait déjà pris fin, s'était emparé de lui. Celui qui connaît l'évangile de l'eau et de l'esprit n'arrête pas les pas du témoignage même face à la persécution, non par calcul de survie, mais pour la valeur du salut déjà accompli. Paul et Barnabas retournèrent de nouveau à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant le cœur des disciples, les exhortant à demeurer dans cette foi et enseignant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Cela ne signifie pas que la tribulation elle-même est une condition pour le salut, mais cela enseignait la réalité selon laquelle plus l'évangile est clair, plus la résistance du monde est inévitable. Et après avoir fait nommer des anciens dans chaque église et prié avec jeûne, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Cela a confirmé une fois de plus que la véritable puissance qui soutient l'église n'est pas le confort de l'environnement extérieur, mais le fondement solide de l'évangile. Arrivés enfin à Antioche, ils rassemblèrent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et qu'il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Mais les apôtres ne se sont jamais vantés de leurs propres accomplissements. Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une histoire de réussite humaine, mais se concentre toujours sur l'œuvre que Dieu a accomplie, ils ont conclu leur voyage par un rapport du ministère dans lequel Dieu était l'agent principal. Le chapitre 14 des Actes demande si notre foi repose sur des miracles ou des accueils, ou si elle se tient sur l'évangile accompli. En se tenant sur cet évangile, selon lequel Jésus-Christ a été baptisé par Jean pour prendre sur lui les péchés du monde, a reçu le jugement pour ses péchés sur la croix, et que le Saint-Esprit témoigne de ce fait dans le cœur de ceux qui croient, l'Église peut être humble au milieu des accueils et audacieuse au milieu des persécutions. C'est le véritable chemin de l'Église bâti sur l'évangile de l'eau et de l'Esprit témoigné dans Actes chapitre 14 et la vie de témoin que nous devons mener. Questions et réponses sur le chapitre 14 des Actes. Première, les serviteurs de Dieu doivent-ils se concentrer sur la formation et la multiplication des disciples En observant le flux de la Bible, la mission des serviteurs de Dieu ne se termine pas simplement par la prédication de l'Évangile une seule fois. Jésus a commandé aux disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Dans ce commandement, la responsabilité non seulement de l'évangélisation, mais aussi de la formation et de la croissance est incluse. Par conséquent, les serviteurs de Dieu doivent se concentrer sur l'établissement des disciples et les aider à se tenir fermement sur l'Évangile. La formation ne signifie pas seulement le transfert de connaissances. C'est un processus pour leur faire comprendre clairement la structure de l'Évangile, leur donner la conviction sur la justice de Dieu et les aider afin que leur foi ne vacille pas dans leur vie. L'apôtre Paul, lui non plus, n'est pas simplement parti après avoir établi une église, mais il l'a visité de nouveau et a envoyé des lettres pour prendre soin des saints afin qu'ils grandissent dans la foi. Cela montre que la formation des disciples est le cœur du ministère. Cependant, l'expression « multiplication » ici ne doit pas signifier uniquement une simple augmentation numérique. La multiplication dont parle la Bible inclut la maturité spirituelle avant l'expansion extérieure. Une expansion sans profondeur risque de ne pas durer longtemps. Les serviteurs de Dieu doivent se concentrer sur l'établissement de disciples solides dans l'Évangile, plutôt que de rassembler beaucoup de personnes. Une communauté bâtie sur l'ordre et la vérité peut naturellement croître sainement. De plus, tous les saints ne servent pas de la même manière. Cependant, les serviteurs de Dieu doivent assumer le rôle de préparer chaque personne à comprendre l'Évangile à sa propre place et à le prêcher aux autres. Lorsque cela se produit, l'Église est établie non pas comme une communauté centrée sur une seule personne, mais comme une communauté centrée sur l'Évangile. En conclusion, il est biblique pour les serviteurs de Dieu de se concentrer sur la formation et l'établissement des disciples. Ce n'est pas une stratégie pour l'expansion organisationnelle, mais l'obéissance au commandement de Jésus. Lorsque le nombre de disciples se tenant droit sur l'Évangile augmente, l'Église se multiplie sainement et cette multiplication s'accomplit dans la volonté de Dieu.